Monsieur Thomas Cassuto, vous avez une remarque à la...
Oui, alors je pense que comme beaucoup, l'intelligence artificielle va être nécessaire, c'est un outil, mais il faut faire attention parce qu'il n'y a pas une intelligence artificielle, il y a des intelligences artificielles. On parle de manière un peu générique d'intelligence artificielle générative, mais en fait, je dirais qu'il y en a au moins trois. J'écarte la première, qui est celle qui est destinée à des fins criminelles, qui est de plus en plus répandue. Il y a celle qui, effectivement, marchandise l'information, et ChatGPT en fait partie. Ce qui a été dit tout à l'heure, je le partage, lorsque le produit est gratuit, c'est que le produit, c'est le client, et qu'effectivement, un petit peu comme on l'a vu avec Google, etc., Google, en fait, c'est une régie publicitaire. Au début, c'était gratuit, c'était formidable. Aujourd'hui, effectivement, on paye Google en cliquant sur des liens qui permettent d'acheter et Google se rémunère globalement comme ça ou en vendant de la publicité. Et ce que va nous vendre les grandes plateformes d'intelligence artificielle, grand public, c'est ça. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est gratuit. Tout le monde consent à payer 10, 20, 30 euros par mois ou par an pour avoir accès. Et à un moment donné, effectivement, on sera totalement dépendant par rapport à ça. Et derrière, il y aura effectivement un lien qui sera non seulement commercial, mais sans doute politique, parce que ce sont des outils d'influence, et on le voit aujourd'hui. Et ce qui est important aussi, c'est que derrière ces intelligences artificielles grand public, en fait, la quantité d'informations qui est produite est de plus en plus falsifiée. Elle est de plus en plus altérée, elle est de moins en moins fiable. Il y avait une étude dans Le Parisien qui le mettait en évidence sur une année. On voit bien qu'il y a une dégradation de la qualité des produits, des contenus qui sont générés. Mais il y a surtout une intelligence artificielle professionnelle destinée aux entreprises, qui, elle, a une forme, un avenir certain. Vous avez évoqué les systèmes en matière médicale. On peut évoquer certaines applications juridiques avec une qualité qui peut être variable en fonction des domaines de compétences, etc., mais qui produit quand même des résultats assez étonnants. Le tout étant de maîtriser les données d'entrée, de maîtriser l'apprentissage, ce qui n'est pas évident, et d'avoir un algorithme qui soit calé pour ne pas tromper. Un excellent exemple de l'intelligence artificielle dans le domaine judiciaire, c'est la numérisation du casier judiciaire. Dans les années 80, la loi a permis cette automatisation, c'est de l'intelligence artificielle, et ça a transformé la prise de décision. Quand vous avez immédiatement ou dans un délai d'une heure ou deux, accès, connaissance au casier judiciaire, eh bien, vous changez la prise de décision. Quelqu'un a déjà été condamné. Il est en récidive, vous pouvez orienter les poursuites de manière totalement différente que dans l'hypothèse où vous l'ignorez. Et donc, c'est tout l'intérêt. L'évolution majeure de l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui ne se voit pas tellement, même si elle est sous-jacente dans toutes les IA que nous utilisons, c'est en fait de créer des doubles numériques. Et ce qui va être peut-être effrayant, c'est peut-être la créature qui va dépasser le maître, mais c'est qu'en fait, à travers ces doubles, on sera capable de discuter avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va devenir l'entraîneur d'une intelligence artificielle, on va lui apprendre à travailler comme on sait travailler, dans un environnement qui sera assez borné. À partir de là, eh bien, on pourra lui donner des données, un dossier, des informations. Dans un dialogue entre l'homme et la machine va apprendre, va s'adapter et va arriver à réaliser des tâches d'une qualité assez proche. Et le rôle de l'homme, ce sera finalement de décider, hein. C'est-à-dire de valider la décision, ce qui est sans doute l'élément le plus important dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je vais y revenir dans un instant. Mais quand vous utilisez Gemini ou ce genre de choses, en fait, elle apprend, hein, elle vous profile. Quand vous promptez sur n'importe quelle IA en disant je suis médecin expert, fais-moi une évaluation du préjudice et vous entrez des données, eh bien, en fait, en même temps, vous êtes profilé. Parce que cette grande IA, ce grand. Oui.
Profiler.
Profiler.
Profiler, oui,
Et
profiler, c'est-à-dire qu'elle va vous identifier, puisque vous avez un compte d'utilisateur, elle va identifier, un, que vous êtes médecin, deux, que vous êtes expert, et que trois, à partir de ce que vous lui demandez, eh bien, vous avez, je dirais, un schéma cognitif particulier qu'elle va utiliser à la fois pour s'entraîner, mais aussi pour adapter ses réponses en fonction de ce que vous allez lui demander
oui.
par la suite. Et c'est pour ça que, on a vu ces drames aux États-Unis d'enfants qui
C'est
sont
les algorithmes
immobiles.
de décision, hein.
Oui, tout à fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on a dans ce double numérique qui peut être très individualisé ou qui peut être très général, on a eu ces drames aux États-Unis d'enfants qui ont développé des idées suicidaires et sont passés à l'acte parce que les IA les ont entraînés. Mais donc, à mon avis, c'est ça qui est important. Et je reviens sur la remarque que je faisais tout à l'heure sur cette décision aux États-Unis. Je pense que les experts vont avoir besoin de l'IA pour traiter des informations particulières, techniques. Ils vont en avoir besoin de l'IA aussi pour traiter les écrits des parties. Ils vont peut-être avoir besoin de l'IA pour faire de la transcription de réunions d'expertise, etc., ce qui est aussi très pratique et simplifier la tâche. Donc, il y a plein d'usages qui peuvent être utilisés. Mais ce qui est très important, et alors là, je vais partager mon écran. Si vous me permettez, il faut que je trouve le bon.
Émis
Voilà.
autorisation de partage pour plusieurs participants. Donc ça devrait
Voilà.
fonctionner.
Donc théoriquement, vous l'avez là. C'est bon?
Non, voilà.
Voilà.
Ah,
Voilà,
vas-y,
ça
c'est
vient.
bon, ouais.
Voilà. Donc en fait, la question de l'aide à la décision, elle est symbolisée dans cette boucle. Alors c'est en anglais, mais ça se traduit de la même manière en français. C'est observer, orienter, décider et agir. C'est-à-dire que comme imaginez un système antimissile, et ben il regarde le ciel et puis il va identifier, à un moment donné, il va regarder tout ce qui passe en l'air, et puis à un moment donné, il va identifier une cible, et puis il va se caler sur cette cible, il va décider est-ce que c'est un élément hostile ou pas, et ensuite il va agir, c'est-à-dire il va tirer. Bon. Et on peut retransposer ce type de boucle dans tous les schémas décisionnels, à mon sens. La vraie question, c'est savoir où est-ce qu'on situe l'homme. Est-ce qu'on le situe à chaque étape pour valider le passage d'une étape à l'autre? Est-ce qu'on le met au milieu, c'est-à-dire que l'homme regarde tout ce qui se passe, mais en même temps, il n'a pas forcément besoin d'intervenir, il a juste la capacité d'intervenir? Ou alors, il est à l'extérieur avec un contrôle minimum, c'est-à-dire il met en route la machine et puis ensuite, il va exploiter le résultat éventuellement en l'ayant révisé ou pas. Alors, on peut avoir d'excellents résultats et on peut avoir des catastrophes, surtout lorsque l'homme n'est pas bien entraîné à ce type de processus. Mais l'essentiel du questionnement, c'est ça. Où est-ce qu'on situe l'homme? Où est-ce que l'on se situe lorsque l'on veut utiliser une intelligence artificielle et que l'on veut l'utiliser dans un processus de décision, c'est-à-dire il y a une faute ou il n'y a pas une faute, il y a. Enfin, que sais-je encore, la solution, elle est blanche, noire, grise, etc. Bon. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis la deuxième remarque que je voulais faire également, c'est que, en fait, au-delà de la formation, c'est qu'à partir du moment où on décide d'intégrer de l'intelligence artificielle dans un processus de travail, en fait, je dirais, il faut établir des protocoles. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Quelle utilisation, quelle IA on veut utiliser? Et on peut faire un benchmark, mais qui sera valable aujourd'hui. Demain, peut-être que les cartes auront été rebattues, il y aura des effets de concentration, etc. Et donc, il faut en permanence s'interroger sur quelles IA, pourquoi faire. Et ensuite, ben dans l'utilisation, comment est-ce que je prompte? C'est-à-dire, est-ce que je dis à la machine, tu es un médecin expert, ou est-ce que je dis, je suis un médecin expert, ce qui va totalement changer. Sur le long terme, les choses, et progressivement, effectivement, avoir je dirais, un processus qui soit normalisé, qui soit contrôlé, qui soit transparent. À partir du moment où on a quelque chose qui est clair, eh bien, on peut être transparent en disant, voilà, moi, j'utilise telle IA selon un processus que j'ai défini, que je valide parce qu'il correspond à la norme ISO. XYZ ou pas, il est à la disposition des uns et des autres, etc. etc. Et ce protocole, quand on rentre un petit peu dans le détail, vous voyez qu'un certain nombre d'organisations ont des chartes d'utilisation de l'IA. Si vous inspirez de ces chartes, vous allez voir qu'en fait, on est dans une forme de soft law, de normalisation, enfin de réglementation progressive de l'utilisation de l'IA à des fins professionnelles, qui est de plus en plus fine. Ce qui est important, c'est effectivement, c'est de se mettre sur une table et de dire progressivement, voilà, en discutant avec d'autres professionnels, qu'est-ce qui est opportun, comment est-ce qu'on procède, quelles IA, etc. Qu'est-ce qu'on délègue à l'IA, qu'est-ce qu'on ne délègue pas à l'IA, et in fine, effectivement, bah, de pouvoir assumer de signer un rapport, c'est-à-dire d'engager sa responsabilité, non seulement dans la conclusion que l'on en tire, mais dans tout le processus, c'est-à-dire bah, la responsabilité d'avoir utilisé une IA qui soit correcte, pertinente, respectueuse des droits fondamentaux, c'est-à-dire la protection des données personnelles, une IA qui ne soit pas discriminatoire, de ne pas d'avoir préservé la souveraineté des données, d'avoir fait en sorte qu'elles ne partent pas à l'étranger, de protéger l'intimité de la vie privée, de protéger le secret médical, hein, parce que effectivement, ça semble évident, mais à partir du moment où on utilise une IA, bah, où vont les données, qui est-ce qui peut avoir accès derrière, etc., etc. Et je pense que c'est ça qui est très intéressant, qui est passionnant, et on est au début, hein. Donc, il faut pas être dans l'angélisme. L'IA, ça apporte des solutions, mais ça apporte aussi ça s'accompagne de dangers. Ça n'est pas quelque chose qui est définitif. C'est un outil qui évolue en permanence. Et ce que l'on voit aujourd'hui, et je reviens à ce que je disais sur le double numérique, en fait, on n'en est qu'au début. Hein. Demain, effectivement, on sera en capacité de partir d'une IA égale zéro et on va l'entraîner comme on éduquerait un enfant, on va éduquer son IA avec des risques. Avec des risques, c'est-à-dire de mal l'éduquer, le risque qu'elle soit polluée par des tiers qui viendraient effectivement introduire un apprentissage malveillant, ou au contraire, effectivement, qui va venir apporter une contradiction utile. Par exemple, la semaine dernière, tu donnais 2 points sur 7 pour tel préjudice, pour une personne du même âge, dans la même situation, etc. Pourquoi aujourd'hui tu mets 3? Et puis, ben vous allez expliquer à l'IA, oui, mais là, c'est un mannequin, alors que la semaine dernière, ben, c'était un joueur de foot. Ou c'était une joueuse de foot, donc les conséquences ne sont pas les mêmes, je ne l'évalue pas de la même manière. Et l'IA va intégrer, etc. Elle va progresser. Et ce sera une discussion au long cours. J'ai le sentiment d'être un peu trop long, mais voilà ce que peut-être pouvais vous dire. Je pense que pour l'expertise, ça va être très, très important, à condition d'en faire un bon usage.